affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons faire ensemble un étonnant voyage qui nous mènera aux confins de l'espace et du temps, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Nous allons emprunter des chemins déjà connus, des itinéraires bien balisés, mais aussi imaginer probablement de nouvelles destinations. Ce merveilleux voyage dans lequel la raison, mais aussi l'imagination et la passion ont toute leur place, c'est celui qui, de toute éternité ou presque, a entraîné l'humanité sur les chemins de la connaissance. Comme nous le verrons, ce fut un long voyage, semé d'embûches, de cul-de-sac, de chemins de traverse, d'épreuves et d'effrois. Ce fut donc une épopée qui bien sûr se poursuit encore aujourd'hui, car à mesure qu'elle avance, la science repousse ses propres limites. Pour accomplir cette exploration, nous avions bien sûr besoin d'un guide. Nous l'avons trouvé en la personne de Catherine Bréchignac. Madame, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes physicienne, ancienne présidente du CNRS, spécialiste des nanosciences, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, et vous venez de publier aux éditions du Cherche Midi un livre dans lequel vous rendez hommage aux bâtisseurs de science. Ce livre est titré « L'irrésistible envie de savoir », ce qui nous plonge au cœur de notre sujet, cette quête de savoir qui étreint l'humanité peut-être depuis l'origine. Pour ma part, ma première question sera plus modeste, elle ne portera pas sur la genèse du monde et de l'humanité, mais sur celle de l'ouvrage. On n'écrit jamais un ouvrage comme ça sans aucune raison. Quel est le feu intérieur qui vous a poussé à l'écrire ?
Il existe beaucoup d'ouvrages sur l'histoire des sciences. Et je n'ai pas voulu en faire un de plus. J'ai plutôt voulu expliquer comment cette cohorte d'humains découvrait la science. Parce que la différence à tout le reste, je dirais, les humains qui bâtissent la science sont interchangeables. Si Einstein n'avait pas existé, on aurait toujours eu les ondes gravitationnelles et on les aurait vues, peut-être plus tard, peut-être avec plus de difficultés, mais elles ont été là. Contrairement, je dirais, aux artistes, aux musiciens, aux compositeurs plutôt, qui, eux, composent d'après leur imagination et complètement par création. Nous, on avance par imagination, bien sûr, mais surtout par rupture et par découverte. Et ce qui fait que la science est cumulative. Et donc, elle se construit petit à petit. Et c'est cette construction, au cours du temps, au fil des siècles, des millénaires même, je dirais, qui m'a poussé à écrire ce livre, sachant que ce qui nous tire, c'est l'irrésistible envie de savoir.
Oui, votre livre est constitué, pas seulement, mais constellé plutôt de portraits d'hommes et de femmes qui chacun ont apporté leur pierre.
Voilà, alors chacun, les gens évidemment, chacun apporte sa pierre, et parce que la science est humaine. La science n'est pas quelque chose, une bulle qui nous descend du ciel. Elle est humaine, elle se construit petit à petit. Et ces personnages que j'ai voulu mettre en avant, alors certains sont très connus, d'autres sont beaucoup moins connus. Mais tous ont apporté quelque chose.
Alors ce qui est frappant, c'est que certes, c'est une aventure humaine. On sent que c'est effectivement un élan probablement inscrit au cœur même de l'humanité. Mais il s'incarne dans telle ou telle personne avec davantage de relief. Est-ce qu'on en ressort avec le sentiment que c'est à la fois quelque chose d'extrêmement collectif, mais aussi une aventure personnelle pour ceux qui la poursuivent? Est-ce que c'est le cas?
Oui, bien sûr, parce que certains sont plus attirés par la science que d'autres. Donc, il faut certaines qualités pour être scientifique. Les scientifiques, vous ne les reconnaissez pas d'une autre
dans
personne.
Le métro,
dans le métro, on ne les reconnaît pas, ça c'est clair. Mais on reconnaît très bien certaines qualités sont des qualités scientifiques, c'est les qualités qualité de ténacité, de vouloir comprendre, de vouloir progresser dans cette connaissance. D'autres ont plutôt envie d'utiliser la connaissance qui existe déjà, alors que les scientifiques sont des explorateurs. Ils ont cette âme d'explorateur. Autrefois, je dirais, ce qui tirait certains explorateurs, c'était d'aller à la conquête de nouveaux espaces, de découvrir des zones terrestres qu'ils ne connaissaient pas. Et maintenant, on connaît absolument tout sur la Terre. Le satellite nous donne absolument tout ce que vous voulez savoir. Et donc, je dirais, la nouvelle aventure, l'inconnu, c'est la science.
Alors justement, on sent quand même qu'il y a au fil de ces portraits et de cette fresque que vous brossez, on sent qu'il y a quand même une forme d'évolution. C'est pour ça que c'est peut-être nécessaire de rappeler qu'elle est encore aujourd'hui une aventure. C'est qu'auparavant, vous utilisiez le terme d'explorateur, l'explorateur scientifique était souvent lui-même un explorateur géographique.
Oui, bien sûr. On a vu des explorateurs géographiques, par exemple l'Académie des sciences, quand on a voulu montrer si la Terre était aplatie au pôle ou à l'équateur, suivant les différentes théories, il fallait absolument vérifier. Donc on a eu deux équipes d'académiciens, l'une qui est partie vers le nord au pôle nord, et l'autre vers le sud à l'équateur pour voir effectivement que la Terre était aplatie au pôle et pas à l'équateur. Ce qui donnait raison à Newton et qui a eu l'avantage de clore la polémique. Donc, en fait, c'était une très grosse aventure parce que, à cette époque-là, Maupertuis, quand il est parti, il est parti et il a, je dirais, il est revenu un an et demi après. Donc, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien à l'époque. Il partait au pôle Nord.
Oui, puis même chez les physiciens, matière que vous connaissez bien, ou d'autres, lorsqu'ils travaillaient en laboratoire, il y avait une économie de moyens incroyable. Parce que je veux dire, ils étaient encore confrontés à de la matière, à des matériaux. Il y avait une sorte d'engagement physique, même par les mains. Est-ce que ça persiste ou est-ce que le lien s'est un peu distendu ?
Alors évidemment, c'est de plus en plus instrumental. On a besoin de plus en plus d'instruments, on a besoin de plus en plus de technologies. On s'est entouré de technologies. Et d'ailleurs, va-t-on vers l'homme augmenté ou pas ? Ça, c'est une véritable question. Où va-t-on dans cette technologie ? Quand on regarde maintenant pour avancer dans la science, il nous faut des instruments extraordinairement sophistiqués. Mais quand on regarde, par exemple, à l'intérieur du corps humain, l'imagerie médicale est spectaculaire. Elle a fait un bond formidable, ce qui permet maintenant de mettre un endoscope et d'aller soigner, alors qu'avant, il fallait ouvrir le ventre du patient, par exemple. Et maintenant, non, on résout les problèmes avec très peu de... c'est beaucoup moins
intrusif.
Hein. Oui. Donc, je dois dire qu'on a fait énormément de progrès. La précision en est beaucoup augmentée parce que l'une des courses, c'est aussi la précision. Toujours plus de précision, plus de précision. La mesure du temps, par exemple, en est un exemple. On mesure le temps avec une précision phénoménale. On n'a toujours pas compris ce que c'était que le temps, mais ça n'a pas d'importance. On le mesure avec une précision. On mesure, un laps de temps, une différence entre deux instants, avec une précision phénoménale. Et ça vient des outils que l'on a construits. Et c'est la science donc progresse avec cette précision qui ne fait que croître. Donc on a maintenant de plus en plus besoin d'outils parce que tout ce qui était visible à l'œil et avec nos sens est trouvé.
Alors, je voudrais dire que le chapitre sur les chapitres d'ailleurs consacrés à la mesure du temps et de l'espace, puisque...
Et oui, les deux sont liés.
Voilà, les deux sont liés.
Liés par la vitesse de la lumière, puisque l'espace... on a ni espace ni temps si on n'a pas de mouvement, donc en fait, tout ça c'est lié, et la vitesse de la lumière lie le temps et l'espace, puisque une vitesse, c'est une longueur divisée par un temps. Donc si elle est constante, nécessairement, quand vous en connaissez un, vous connaissez l'autre.
C'est ça. Mais alors, justement, moi, ce qui m'a fasciné dans ce chapitre, que pour ma part, j'ai ressenti comme central, c'est qu'on touche du doigt en les parcourant, que la science, finalement, touche à la métaphysique, parce que les questions de temps sont métaphysiques.
Oui. Les questions de temps pour soi-même, oui.
Oui, pour... pour soi-même, et puis cette idée que l'univers peut être infini, que le temps se distord, et oui. que tout ça n'est que perception, ça nous plonge dans des abîmes, j'allais dire platoniciens, je ne sais pas si c'est le terme exact, oui. mais ça nous déstabilise beaucoup, ça c'est la première chose. Et l'autre, c'est que l'aspect aventurier, voire aventureux, et toujours aujourd'hui, de la science persiste, puisqu'on est capable de mesurer quelque chose dont on n'a pas perçu la nature, donc c'est aventureux. Voilà. On va dans un territoire qu'on ne connaît pas,
absolument.
Avec des instruments, un petit peu, j'imagine, comme les navigateurs d'autrefois pouvaient se lancer sur, sur un océan dont ils ne connaissaient pas les limites, mais en sachant néanmoins regarder le ciel,
les
étoiles.
En ayant un bateau.
Voilà.
Oui, et c'est un peu la même chose. Cette recherche du temps est une recherche absolument fascinante. Alors en fait, on a essayé de comprendre ce que c'était que le temps, on n'y arrivait pas. Donc on s'est dit, bon, de guerre lasse, on va le mesurer. Et c'est parce qu'on fait des mesures de plus en plus précises qu'on finit par peut-être, on aura l'idée de savoir qu'est-ce que c'est que la nature du temps.
Alors j'ai parlé d'un vertige, mais alors, l'ultime vertige en matière de temps, là je pose la question aussi pour moi parce que j'ai besoin de comprendre, moi aussi, c'est ce que la discipline, ou je ne sais pas comment l'appeler, quantique, vient encore perturber cette notion du temps et des relations entre temps et espace. Pouvez-vous nous expliquer cela ?
Non, alors ça c'est pour l'instant... pour l'instant, c'est des choses différentes. C'est-à-dire que la notion d'espace et de temps sont liées à la relativité avec Einstein, il a découvert, si on peut dire, mais surtout lui, au fond, on avait compris que la vitesse de la lumière avec les équations de Maxwell était une vitesse qui finalement devait être constante et qu'on ne pourrait pas la dépasser. Et Einstein a dit, puisque c'est comme ça, on va la prendre constante et puis on verra bien ce que ça va donner. Et quand on va arriver à la vitesse de la lumière, qu'est-ce que ça va faire ? Et on en a un tout petit peu la perception lorsqu'on est sur l'autoroute et qu'on se met en voiture avec une vitesse définie. On ne peut pas doubler celui qui est devant nous. Parce que justement, c'est la vitesse limite. Donc si on a envie d'avoir une toute petite notion de ce que c'est que la vitesse limite, on peut faire cette analogie-là. Alors elle est fausse, mais elle donne quand même une perception de ne pas pouvoir rattraper celui qui se trouve devant nous, puisqu'il a la vitesse limite et nous aussi. Ça donne une idée de ce que c'est que cette vitesse limite. Donc quand on a eu cette notion-là, ensuite Einstein a fait sa théorie de la relativité, puis la théorie de la relativité générale, et ça, on a donc mis l'espace et le temps, et c'est un point. Deuxièmement, de l'autre côté, on s'est intéressé à l'infiniment petit, et à l'infiniment petit, quand on descend en taille, on arrive au domaine du quantique. Alors, on peut avoir maintenant des objets quantiques qui sont grands, mais résonnant sur les petits. Donc, on descend sur les atomes et on a le phénomène quantique, ce qui est, au départ, on l'a compris par le fait qu'il se passait par saut. C'est-à-dire qu'en fait, un électron, quand il va d'une couche à une autre, il saute, un peu comme un kangourou qui saute. Donc ça, c'était le début de la mécanique quantique. Et ensuite, on a eu ce côté tout à fait difficile à comprendre. D'ailleurs, moi, j'ai mis un certain temps pour le comprendre. Après, j'ai d'abord appris la mécanique quantique. Ensuite, j'ai fait les calculs, comme tout le monde, à l'école. Et après, j'ai commencé à comprendre un peu plus ce que c'était au fur et à mesure. Mais il faut beaucoup de temps pour s'y mettre. Et là... vous voyez, vous avez cette dualité onde-corpuscule, c'est-à-dire qu'en mécanique quantique, vous êtes à la fois onde et corpuscule. Bon, très bien. Donc, ça, une fois que vous avez accepté ça et que vous le manipulez, ça va. Mais le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas de théorie générale qui chapeaute les deux. C'est-à-dire qu'on a des théories dans le monde quantique, bon, parfait, qui, je dirais, relie les forces électromagnétiques, les interactions fortes et les interactions faibles dans les noyaux, c'est-à-dire c'est vraiment dans ce domaine-là. Et de l'autre côté, on a la théorie de la relativité, et on cherche actuellement à savoir si on a une théorie qui pourrait être plus générale, au fond revenir à l'idée d'Aristote qui disait que finalement il y avait une cause première, ce qui vraisemblablement n'est peut-être pas vrai.
Qui est un moteur.
mais qui est un moteur. D'ailleurs, Aristote nous a mis beaucoup de moteurs. Il a mis beaucoup d'hypothèses fausses, d'ailleurs. La majorité sont fausses. Mais ça fait rien. Ça nous a permis de voir si, justement, est-ce que cette hypothèse est vraie, est-ce qu'elle n'est pas. Aristote ne voulait pas entendre parler de l'atome, contrairement à Démocrite, qui, lui, disait c'est une notion qui doit exister. Bon, on a mis 2500 ans pour le trouver. On a trouvé l'atome, donc on a abandonné. Mais Aristote a eu l'avantage phénoménal, de nous pousser justement à essayer de voir et de montrer est-ce qu'il existe cet atome ou est-ce qu'il n'existe pas. Et donc ça a été une notion extrêmement importante. Est-ce que lorsqu'on diminue la taille de la matière, on arrive à la plus petite particule qui garde des propriétés de la matière? Puis après, bien sûr, quand on va sur le noyau, c'est une autre histoire.
C'est le nucléaire qui commence.
C'est le nucléaire qui commence.
C'est ce qui est fascinant d'ailleurs dans le cheminement, c'est de voir à quel point même, c'est un mot de Victor Hugo je crois, même les erreurs sont fructueuses.
Et Victor Hugo dit, et c'est une phrase que je trouve extraordinaire, il le dit dans le livre qu'il a écrit en parlant de William Shakespeare, et il dit « la science va se raturant elle-même ». Et ça, je trouve cette phrase magnifique. Magnifique.
Dans cette galerie d'anciens sur les épaules desquels nous sommes juchés, il faut donc rendre grâce aux erreurs également et aux errements.
Absolument.
Parmi les erreurs les plus fructueuses, lesquelles sélectionneriez-vous ?
Alors, dans mon livre, j'en ai mis une sur Édouard Léonce Côte de Martinville, qui a essayé de fabriquer un appareil, parce que son idée était... Alors, c'est un personnage qui n'est absolument pas connu, et pourtant, il nous a légué la voix humaine la plus ancienne.
Une histoire extraordinairement émouvante, hein. Il faut que vous nous la racontiez en entier, celle-ci.
Elle est absolument... C'est très étonnant. D'ailleurs, c'est grâce aux archives de l'Académie des sciences qu'on a pu la reconstituer. En fait, Édouard Léonce Côte de Martinville était un homme typographe qui avait une envie, c'était d'éviter aux sténographes de faire ce travail fastidieux qui était d'écrire en sténo pour que les discours qui étaient... Alors, on raconte que Socrate, déjà du temps de Socrate, ses discours, justement, avaient été pris en sténo. Sténo de l'époque, évidemment. Donc, il voulait éviter ce travail fastidieux et il voulait que, lorsque l'on parle, la parole s'écrive automatiquement. Et donc, il avait inventé un appareil qui était une conque avec une membrane. On parlait dans cette conque. Et ensuite, la membrane, au bout de la membrane, il y avait un stylet. Alors, c'était assez sophistiqué, d'ailleurs, ce qu'il avait fait pour éviter la résonance propre de la membrane. Enfin, bref. Et avec ce stylet, il écrivait sur une feuille de papier noirci au noir de fumée. Et il écrivait comme ça, au fond, les éléments électrocardiogramme ou électroencéphalogramme, c'était un peu la même chose, mais c'était le son. Bon. Et il pensait qu'on serait capable de lire ce texte et ensuite d'avoir donc, c'était la parole s'écrivant d'elle-même. Et on parle et ça s'écrit tout de suite.
Où l'on voit sa formation de typographe imprimeur.
Voilà. Bon, malheureusement, c'était trop compliqué. Malheureusement, personne n'était enclin à comprendre ce qu'il voulait faire. Et puis, il a arrêté. Il a laissé ses documents dans des cartons à l'Académie des sciences parce qu'il avait déposé un pli-cacheté. Et ensuite, 20 ans plus tard, Edison est arrivé en inscrivant le son, mais en restituant le son. Parce que ce qui intéressait Edison, c'est de dire « on pourrait garder du son après ma mort ». Alors que Scott n'avait pas du tout cette optique-là. Scott voulait écrire le son. Il ne voulait pas le réécouter. Il dit « à quoi ça sert de réécouter un son ?» Et donc il a été extrêmement triste lorsqu'il a vu le succès qu'a eu Edison sur des choses qui pour lui étaient sans intérêt. Et il en est mort. Et... un siècle plus tard, un peu plus, est arrivé à l'Académie des Hollandais et puis des Américains qui voulaient revoir ces enregistrements. Donc on leur a dit bien sûr oui, on leur a montré ces enregistrements, ils en ont pris des photos, ils les ont emmenés aux États-Unis dans un laboratoire qui faisait de la reconstitution vocale. Et là, avec les logiciels actuels, on a été capable de, d'inscrire, de numériser ces enregistrements et de restituer la voix d'Édouard Léon Scott de Martinville qui chante Au clair de la lune. Et ça, c'est très émouvant parce que je suis allée aux États-Unis où, pour un colloque dans la maison d'Edison, et justement les deux arrière-petits-enfants, l'un d'Edouard Léon Scott de Martinville et l'autre d'Edison, se sont rencontrés pour la première fois en parlant de leurs arrière-grands-pères. Et c'est très émouvant de voir comment progresse la science. Alors maintenant, avec vos ordinateurs, on est capable de parler devant l'ordinateur et votre discours est tout de suite inscrit. Et vous pouvez le lire.
Justement, au fil de l'ouvrage, on sent, et à travers cet événement-là aussi, cette quête de cet homme assez solitaire, son enthousiasme profond, mais aussi, là, en l'occurrence, il n'en a pas bénéficié, cette atmosphère générale d'accueil des découvertes scientifiques, de mobilisation de la société entière derrière la science, de cette foi dans le progrès qui portait à la fois les chercheurs, mais aussi probablement des générations entières qui étaient fascinées par la science. Il y a quand même un petit effet de contraste par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui, non ?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, je pense que la science avançait trop vite. Alors, elle avançait très vite et c'est très bien. La connaissance a terriblement progressé. On est capable de faire des choses spectaculaires, surtout au niveau médical. On a tout à fait fait des progrès incontestables. Mais cette science qui va très vite, cette connaissance qui avance très vite, une partie de la population n'est pas capable de l'assimiler. Il faut quand même penser qu'on a encore un peu moins d'un milliard de personnes sur Terre qui sont analphabètes, d'adultes. Hein. Alors, l'illettrisme, c'est encore pire, c'est-à-dire ceux qui savent à peine lire et qui ne comprennent pas bien ce qu'ils lisent. Donc, on en est là. Et de l'autre côté, on a la science qui progresse très vite. Et ce qui m'angoisse un peu, angoisser, c'est peut-être un gros mot difficile, mais enfin, malgré tout, quand même, c'est cet écart qui se creuse entre ceux qui savent de plus en plus et ceux qui ne savent toujours pas. Et au bout d'un moment, c'est pas possible de rester dans cette situation-là, parce qu'on va avoir des gens qui vont être trop dépendants de ceux qui savent. Et c'est ça qu'il faut combler actuellement par l'éducation, par la formation. Donc il y a un énorme travail à faire pour arriver à faire que tout le monde ait un minimum de connaissances scientifiques. D'ailleurs, même la réforme du bac aujourd'hui, elle est basée là-dessus. Il faut impérativement que tout le monde, même les littéraires, ait un minimum de connaissances scientifiques.
Oui, c'est ce que je veux dire. Dans l'ensemble des portraits que vous faites, on voit que les scientifiques que vous décrivez sont des gens qui sont férus, soit de métaphysique, soit de philosophie, qu'ils s'insèrent dans les grands débats d'idées de leur temps, qu'ils sont stimulés par les débats d'idées de leur temps, qu'un grand nombre de personnalités plutôt littéraires participent à la diffusion de la connaissance scientifique dans la société.
L'histoire de Voltaire est magnifique.
L'histoire de Voltaire est superbe.
L'histoire de Voltaire est magnifique. Émilie Duchâtelet était, elle, la scientifique du couple, puisqu'ils étaient amants, et lui était le vulgarisateur. Et il l'a fait de manière remarquable. C'est Voltaire qui avait passé à son époque et en France toutes les idées de Newton. Oui, ça c'est important de voir ça. Donc en fait, il faut impérativement avoir cette connaissance de base. On ne demande pas à tout le monde d'être scientifique, mais au moins d'avoir une connaissance de base. C'est indispensable.
En fait, est-ce que vous pensez qu'on revient maintenant sur cette dichotomie ? Enfin, dès l'école, lorsque moi j'étais à l'école, on était tout de suite classé entre littéraire, scientifique, c'était étanche, mais vraiment aiguillé. Toi, tu iras dans une formation littéraire, toi dans une formation scientifique. Moi, je veux bien qu'on puisse se spécialiser par la suite. Mais est-ce que quelle est la solution à cela ? Enseigner l'histoire des sciences
Je pense déjà qu'enseigner l'histoire des sciences et enseigner l'histoire des sciences avec des scientifiques et des historiens. À l'Académie, nous avons des 5 à 7 histoires des sciences avec deux scientifiques, deux historiens. C'est très important de regarder quelque chose avec différents éclairages, de ne pas n'avoir qu'un seul éclairage, parce qu'automatiquement, le scientifique va connaître plus en profondeur la science et l'historien va la remettre dans son contexte. Donc je trouve que c'est très important d'avoir ce double éclairage. Donc il faut l'histoire des sciences, c'est clair. Il faut aussi savoir faire des synthèses. C'est la le point le plus important, parce que plus les connaissances se mettent à croître, si vous les laissez croître sans les trier, sans en faire des synthèses, c'est impossible à enregistrer dans votre tête. Donc il faut vraiment arriver à faire des synthèses, à avoir des professeurs qui vous, au fond, qui réduisent à la partie fondamentale l'essence de la connaissance. Et donner ça à tout le monde. Et puis après, bien sûr, vous avez ceux qui s'intéressent plus aux sciences et ceux qui vont partir dans les lettres.
Finalement, ça ressemble à quelque chose comme un nouvel esprit encyclopédique.
Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut repenser l'encyclopédie, non pas l'encyclopédie comme le faisait Diderot, bien que je trouve que c'était très intéressant la manière dont cette encyclopédie avait été pensée, parce qu'en fait, elle avait été pensée et structurée. Et structurer. Donc là, il faut faire la même chose, structurer la connaissance que nous avons.
Par ailleurs, même si certaines angoisses sont certainement non fondées, exagérées, dues à l'ignorance, vous ne cachez pas vous-même que certaines avancées scientifiques d'aujourd'hui sont quand même particulières.
Il y a des avancées scientifiques.
Il ne s'agit pas que de comprendre, vous dites.
Alors, aujourd'hui, bien sûr, jusqu'ici, la physique, c'est la science des lois. Bon, on apprend les lois et on essaye de comprendre les lois, de les relier les unes avec les autres. Bon, la chimie, c'est déjà la création, l'analyse et la création de matière inerte. Bon, on a eu par exemple la création de matière inerte avec tous les plastiques qui d'ailleurs nous posent des soucis, parce que quand vous faites un plastique, vous mettez très peu de temps pour le faire, peu de temps pour l'utiliser et 200 ans pour si vous voulez le laisser se détruire de manière naturelle. Donc en fait, tous ces nouveaux matériaux ont été la création de la chimie. Alors c'est très important la chimie, c'est une science fabuleuse et donc voilà. Mais maintenant, on est capable avec les ciseaux moléculaires, de jouer sur l'ADN et donc sur la vie. Et donc, alors, lorsque vous faites des modifications d'ADN, vous le réparez sur des cellules somatiques, c'est-à-dire celles de l'homme adulte, bon, ma foi, ça vous changez vous, mais c'est peut-être pas dramatique. Mais si vous le faites sur des cellules germinales, sur des ovocytes ou des spermatozoïdes, ou même sur l'embryon, là, vous allez perturber complètement l'hérédité. Et ça pose un problème éthique phénoménal. Je trouve que c'est aujourd'hui, c'est la, je dirais, sur le plan éthique, c'est vraiment sur ce point qu'il faut que l'on réfléchisse à où va-t-on. Alors, savoir le faire, c'est une chose, et c'est très bien, il faut savoir le faire. De toute façon, à partir du moment où on a fait une découverte, on ne pourra pas revenir en arrière et se dire on ne l'a pas faite. Bon, ça, on est bien obligé de partir dans l'idée, voilà, la découverte est faite, elle est là, on sait ce que c'est.
Malgré tout, le temps existe.
Malgré tout, le temps existe, et deuxièmement, il faut impérativement réfléchir à ce que l'on fait et pas partir dans des choses absurdes. Et c'est ce que je dis dans mon livre en disant que quand on réfléchit un tout petit peu, il y a un peu plus de 500 000 ans, l'homme avait découvert le feu, il l'avait maîtrisé, surtout. Ensuite, on voit qu'il y a 30 000 ans, il dessinait sur les cavernes, il y a 6 000 ans, il inventait l'écriture, 2500 ans, la philosophie et début des sciences. Il y a 500 ans, 400 ans qu'on a la démarche scientifique vraiment avec cette comparaison théorie, expérience, modèle et expérimentation. Et si tout se passe normalement sur la Terre, c'est-à-dire qu'on garde une Terre habitable, et on peut penser que le système solaire et la Terre dans ce système peut durer encore plus d'un milliard d'années. Donc vous voyez, un milliard d'années par rapport à 500 000 ans, c'est ridicule tout ce qu'on a fait déjà jusqu'ici. Alors, je termine mon livre en disant « Prenons le temps de penser ».
C'est exactement ce que nous faisons au Canal Académie, madame.
Absolument, c'est ce que nous faisons, c'est pour ça que je suis très heureuse d'être ici, de prendre le temps de penser.
C'est peut-être un effet, d'ailleurs, non perçu au départ de toutes ces innovations, d'abord scientifiques, puis technologiques, cette accélération du temps. On pense toujours au risque démiurgique, mais parfois on peut modifier les sociétés avec des choses beaucoup plus simples, comme la simple accélération biotechnique, comme l'email, le téléphone.
Oui, ou alors ça, c'est une société qui est un peu erratique en ce moment. On a des outils qui sont merveilleux, le téléphone portable, les emails, tous les réseaux sociaux. Il y a des côtés très positifs, et puis il y a des côtés très néfastes, parce que n'importe quoi circule en boucle. Vous avez des fake news, vous avez toutes sortes de choses qui touchent à l'émotion. Encore une fois, il faut bien voir qu'on marche sur deux pieds, avec d'un côté la raison et de l'autre côté l'émotion et la spiritualité. Donc voilà, c'est cet équilibre qu'il faut conserver.
Dans l'ouvrage n'est pas seulement historique, même s'il l'est majoritairement, il s'ouvre sur l'avenir, car vous le dites, les frontières de la science sont infinies.
Enfin, infinies, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, pour nous, pour l'instant, oui. Mais bon, je ne sais pas, c'est compliqué, l'infini. Gamow a écrit un livre, Le zéro et l'infini, qui est tout à fait extraordinaire. Ça, c'est une notion que je n'en parle pas dans mon livre, mais je trouve que ça mérite de réfléchir dessus. Qu'est-ce que c'est que le zéro? Le zéro, c'est l'origine, en fait. Le nombre zéro, c'est l'origine des nombres. Et l'infini, c'est le temps est infini, tout est infini, on n'y arrivera jamais. Donc d'un côté, vous partez de rien, et de l'autre côté, vous n'arriverez jamais. Alors voilà, c'est un peu l'esprit dans lequel on se trouve, et pour l'instant, on fait progresser la connaissance.
Dans cet élan pour réconcilier les sciences, combler le fossé qui peut se creuser entre ceux qui savent de plus en plus et ceux qui en connaissent de moins en moins, mais utilisent de plus en plus les outils, vous laissez une place aux mythes. Vous êtes assez inquiète de la façon dont les mythes colonisent la science.
Oui, j'aime beaucoup les mythes, en fait.
Ça se sent dans le chapitre.
J'aime beaucoup les mythes. Je trouve que le mythe fait réfléchir. Justement parce qu'il déforme. Quand vous êtes dans un endroit où vous êtes, les choses sont déformées, vous voyez des détails que vous ne voyez pas lorsque ce n'est pas déformé. J'aime beaucoup les mythes. Mais les mythes, il ne faut pas du tout les comparer au raisonnement scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien séparer la science de la science-fiction, le mythe de la science. Il faut bien voir qu'ils se traduisent dans un autre domaine et dans l'espace de l'imaginaire, et qu'ils vous apportent une autre vision, mais que ce n'est pas la vision du réel. Voilà. Et donc, une fois qu'on sait ça, on joue avec le mythe. Mais quand on ne sait pas ça, alors le mythe peut nous entraîner dans une incompréhension du réel, c'est-à-dire en fait, on s'imagine que tout est possible alors que ce n'est pas vrai, et on imagine des choses qui ne se produiront jamais, et peut-être on peut passer à côté de certaines qui vont se produire.
Mais c'est pas stimulant aussi.
Le mythe, c'est très stimulant. Ah oui, c'est très stimulant. Les mythes font partie des sociétés, c'est sûr. Mais en fait, il faut savoir que on a dans sa tête, quand on pense au mythe, le fait que c'est pas vrai. Mais peut-être qu'il y a un petit quelque chose de vrai quand même.
Oui, c'est le principal. Alors, quand on pense au mythe, évidemment, on pense très souvent au mythe qui concerne les origines, justement, les origines des sociétés.
Oui,
il y a toujours un mythe à l'origine des sociétés.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'il ne nous faudrait pas, pour redynamiser un petit peu cette appétence aussi pour la science, une mythologie de l'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas un manque dans nos sociétés d'une mythologie de l'avenir, une sorte d'horizon
mobilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, je fais bien la différence entre la rupture dans la science et l'imagination. L'imagination ne peut vous aider qu'à trouver ce que vous savez déjà, plus ou moins. On progresse, enfin, c'est déformé, c'est tout ce que vous voulez, mais au fond, les vraies ruptures de la connaissance, et c'est là où seule la science progresse par rapport à tout le reste, les ruptures viennent de ruptures de découvertes, de choses que vous n'imaginez pas. Quand on a trouvé la mécanique quantique, ça a été un vrai bouleversement dans la tête des gens. Et en fait, il a fallu changer complètement de façon de voir la matière. Et ça, c'est une Ça, pendant 50 ans, les gens en ont discuté, même en discutent toujours encore, après un siècle de découverte de la mécanique quantique. Donc en fait, je dirais que prévoir l'avenir, c'est impossible. On peut imaginer, on peut extrapoler par rapport à ce qui existe déjà. Oui, on peut vraiment, ça c'est clair, se dire voilà, ça va être extrapolable dans telle ou telle direction. Mais prévoir les ruptures, on ne prévoit jamais une rupture. Voilà.
Par définition,
elle est là, elle arrive, vous tombe dessus.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune, moins jeune, qui se destine à une carrière de chercheur aujourd'hui en France, à l'orée du troisième millénaire?
De le faire avec passion, que c'est une aventure extraordinaire, que c'est, alors bien sûr c'est pas le métier le plus lucratif qui puisse exister, ça c'est clair. On pousse toujours beaucoup les gens en leur disant il faut que ça soit rentable, il faut que vous trouviez quelque chose qui soit rentable. Oui, c'est bien sûr c'est utile, il faut faire de la science pour la société, parce que je parle beaucoup de la science de manière globale, mais je parle pas toujours de la science utile à la société. Elle est indispensable, cette science utile à la société. Et d'ailleurs, elle se mélange avec l'autre. Hein. Les deux ne sont pas, je dirais, disjoints. Mais le fait de partir dans une aventure, faut être un explorateur. Et à partir de ce moment-là, vous y trouvez une satisfaction extraordinaire.
Écoutez, moi aussi j'ai un conseil à leur donner, c'est peut-être de commencer pour tester leur appétence et
à lire
votre livre, exactement, parce que ce livre en tout cas peut créer des vocations, car il donne envie de s'inscrire dans cette longue cohorte venue du fond des âges et d'y apporter
sa pierre
à ce long édifice toujours en voie d'édification. Si vous me le permettez, je vais donc rappeler les références de cet ouvrage, qui est un ouvrage sur les sciences, mais qui n'est pas un ouvrage réservé aux scientifiques.
C'est plus un essai.
Voilà, c'est un essai et une présentation et un partage, une transmission à la fois de connaissances, mais aussi d'une passion, je pense.
Absolument.
Donc il s'agit de l'irrésistible envie de savoir, bâtisseur de science, par Catherine Bréchignac, aux éditions du Cherche Midi, à mettre entre toutes les mains de personnes qui souhaitent s'interroger sur une carrière scientifique, ou de toutes celles qui devraient, comme tout un chacun, mieux comprendre ces sciences qui sont si centrales dans nos vies aujourd'hui. Merci beaucoup, madame.
Merci.